l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'attends encore un de mes interlocuteurs qui doit être l'association France-Palestine Solidarité. Et pourquoi ? Parce que, justement, cette association doit recevoir à Montpellier, ainsi que le collectif Stop Armes Nucléaires 34, Patrice Bouveret, le mercredi 13 et le jeudi 14, Patrice Bouveret venant au titre de la campagne internationale pour le désarmement nucléaire Alcan, dont il est un des animateurs français, et également représentant l'Observatoire des armements, qui est une ONG qui a été créée en 2008 pour justement fournir aux associations qui interviennent sur les questions d'armement ou de désarmement une documentation fiable et sérieuse. Alors, je suis donc avec Guy Guyot, qui représente le collectif Stop Armes Nucléaires 34, un collectif récent qui s'est constitué, peut-être va-t-il nous le dire, au cours de l'année 2016, et puis qui participe également, évidemment, à la réception de Patrice Bouveret dans notre ville, puisqu'il organise mercredi 13 décembre une soirée où Patrice Bouveret interviendra. Alors, Guy Guyot, nous sommes heureux aussi de cette venue parce que la campagne internationale pour le désarmement nucléaire ICAN vient d'obtenir le prix Nobel de la paix, qui lui a été remis d'ailleurs ce week-end à Oslo.
Oui, tout à fait. Bonjour. Ce travail des organisations non gouvernementales, des associations, a démarré depuis très très longtemps. En fait, revenir d'une manière importante sur tout l'historique, c'est avec la décision par la France de la construction de la force de frappe nucléaire et de l'option de la stratégie de dissuasion lancée par le général de Gaulle dans le début des années 60, que se crée un mouvement de contestation de cette construction de la force de frappe, puisque pour nous, bien, c'était la fuite en avant suite à Hiroshima et Nagasaki dans la montée en puissance des armes de destruction massive. Bien sûr, sans oublier les armes chimiques et biologiques. Et c'est en début de ces années 60 que se crée le mouvement contre l'armement atomique au niveau national, qui va essayer de sensibiliser l'opinion publique française, à la fois par des mobilisations de marches. Donc c'est déjà cet aspect de En Marche, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais dès ce moment-là, c'était un des facteurs de mobilisation collective et de prise de conscience. La première marche contre la construction de la force de frappe française, qui aura lieu à chaque printemps, de fait,
comme
historiquement...
Comme les marches d'Andermaston.
Voilà, tout à fait. Suite aux initiatives en Grande-Bretagne, c'est repris au niveau de la France et c'est le groupe de Montpellier qui se crée notamment avec une composante du Parti Socialiste Unifié et puis aussi de des militants d'Action Non Violente. Donc et ces deux volets-là, donc dès le départ, plus avec un aspect de dimension environnementale qui va augmenter au fur et à mesure des années. Donc c'est la première marche qui a lieu dans notre région Languedoc-Roussillon et qui regroupe à la fois des partis politiques mais aussi de l'ensemble des associations quoi. Et puis ça c'est ça le premier point. Le deuxième point, c'est que pour mettre en œuvre cette construction de la force de frappe française, la France va organiser des expériences nucléaires d'abord au Sahara puis en Polynésie, d'abord explosion aérienne puis souterraine, et donc là il y aura une prise de conscience progressive sur les retombées pour les habitants qui sont concernés directement tant au niveau de l'Algérie que de la Polynésie française. Et ce centre de recherche et de documentation sur la paix et les conflits va jouer un rôle important.
Oui, c'est un centre qui a été créé à Lyon.
Tout à fait, à Lyon, donc avec à la fois Patrice Bouvray, donc, que nous allons recevoir, et Bruno Mario, qui vont contester le discours officiel de l'armée française, qui en gros se résume, les explosions, bah, ça fait pas de dégâts particuliers, il n'y a pas eu de retombées particulières, et la soirée de mercredi, avec la projection d'un film à Home, A-T-H, entre parenthèses, Home, réalisé par... Elisabeth Levray va montrer que dès le premier essai, ça ne s'est pas passé comme on nous l'a laissé croire, et que c'était un essai souterrain, et qu'en fait, au-dessus de cet essai souterrain, la montagne qui surplombait s'est écroulée. Il y a eu des radioactivités collatérales, d'après le discours, mais qui, ça sera seulement reconnu très tard.
Et même, ignoré pour la plupart, parce qu'on en parle très peu à cause du secret défense. Ce secret défense que Patrice Bouveret sans doute invoquera, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être révélées avec les sources.
Voilà, tout à fait. Et donc là, il faudra attendre... seulement les années de plus après 2000, entre 2010 et 2014.
Oui, il y a une loi d'indemnisation, la loi Morin.
Voilà, tout à fait, la loi Morin, donc avec une commission qui est chargée de faire l'état des lieux, le bilan sur les réalités des conséquences sur des personnes. Et là, l'armée va faire véritablement obstruction. C'est un peu comme dans le monde du travail sur les maladies professionnelles, voire le domaine sur l'amiante notamment. Il faudra des années et des années et des années avant que ça soit reconnu comme maladie professionnelle. Là, c'est la même chose. Une commission va être créée, donc suite pour la mise en œuvre de cette loi complétée par le décret de juin 2010, qui note la possibilité de 18 maladies radio-induites, qui définit des zones géographiques concernées, mais pendant des périodes bien précises. Et alors après, pour les plaignants, il s'agit effectivement qu'il y ait reconnaissance de l'aspect de la maladie, que c'est dû aux essais nucléaires. Donc après des dizaines d'années après ces expériences-là, c'est pas toujours facile. Et sur les aspects, y compris de radiométrie, ben, il y a un certain nombre d'habitants qui, évidemment, n'avaient pas les dosimètres sur eux au moment des expériences et ne peuvent rien prouver. Et finalement, il y aura plus de 800 pleins de dossiers d'ouverts et il y aura une petite dizaine seulement de cas reconnus. Donc, on voit cet aspect obstruction systématique qui est faite tout au long de ces années.
Oui, d'ailleurs, je crois qu'en Polynésie, il y a justement une revendication actuelle.
Tout à fait, le 19 août de cette année, c'est le parti indépendantiste Tarini qui a déposé une plainte contre l'État français devant la Cour pénale internationale de La Haye et devant l'ONU, devant sa 4e commission de décolonisation de l'Assemblée générale de l'ONU, pour faire prendre en compte l'ensemble des conséquences de tous ces essais nucléaires qui vont avoir lieu tout au long des années de la construction de la force de frappe française.
Alors revenons à ce traité d'interdiction des armes nucléaires, car c'est vraiment un moment historique. Le 7 juillet, l'ONU a rédigé ce traité qui a été soutenu évidemment par un grand nombre d'États.
Voilà, tout à fait. Et ce traité international, on peut considérer que c'est aussi l'œuvre de cette campagne internationale, ICAN, qui est aussi campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, donc ICAN. Et cette campagne a été créée en 2007, a été soutenue et animée par aujourd'hui un collectif de 440 organisations qui appartiennent à 98 pays. Et donc une majorité, un nombre important de pays qui évidemment tous ceux qui n'ont pas cette force de frappe, non seulement qu'ils ne l'ont pas, mais qui refusent également de pouvoir la construire. Et,
oui, et
qui dénoncent en quelque sorte la structure même avec le droit de veto des puissances nucléaires qui empêchent toute progression pour un désarmement nucléaire multilatéral concerné.
Alors, il faut rappeler que c'est toujours un danger considérable pour l'humanité, l'arme nucléaire, puisqu'il y a plus de 15 000 bombes nucléaires en service, dont plus de 2 000 en état d'alerte permanent. Et c'est cette menace d'apocalypse qui est vraiment dénoncée par plus des deux tiers des pays de la planète.
Voilà, tout à fait. Et dans cette mobilisation-là, il faut souligner aussi le rôle d'élus de villes, de communes, qui se sont regroupés à la suite de l'initiative des maires d'Hiroshima et de Nagasaki, qui ont créé l'association Maires pour la paix, et association internationale à laquelle la ville de Montpellier a adhéré à l'époque d'Hélène Mandrou et qui a été célébrée d'une manière publique lors d'une célébration d'un anniversaire du jumelage.
Oui, le 45e.
Le 45e
à la ville, anniversaire
avec la ville d'Heidelberg qui était donc membre de cette association Maire pour la paix et de Madame la maire de Montpellier-Vermont, un état des États-Unis. Donc, ils ont signé ensemble cette déclaration. Et au niveau du monde entier, il y a tout un réseau de villes et de territoires qui continuent à faire un travail de mobilisation importante par rapport à cet arrêt de la course en avant, de la fuite en avant dans la montée de la terreur et des forces de destruction massive.
Oui, justement, le mouvement des maires pour la paix avait lancé une pétition concernant justement les villes. Nos villes ne sont pas des cibles, parce qu'effectivement, quel est le maire qui peut assurer ses concitoyens qu'il peut les protéger contre les retombées radioactives d'une bombe?
Voilà, tout à fait, absolument.
C'est absolument impossible.
Alors, au-delà même des villes, bien sûr, il y a de plus en plus, grâce à toute l'action de cette campagne et puis des associations, des organisations non gouvernementales, des associations locales, régionales, dont en France, ici même, notre propre collectif, pour interpeller les députés. Et là encore, à travers des actions symbolique chaque année à l'occasion de la commémoration des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, les 6 et 9 août. Chaque année, il y a des initiatives. Et à Montpellier, depuis plusieurs années, eh bien, il y a un jeune public avec organisation de débats qui permettre au moins d'avoir à la fois des articles dans la presse, mais aussi d'interpeller nos propres élus.
Oui, alors le collectif Stop par Nucléaire 34, évidemment, à la suite des nombreuses démarches qui avaient déjà été tentées auprès de la ville pour que justement la ville adhère à Mère pour la paix, ce qui s'est fait en 2006, qui a reçu aussi la flamme du désarmement nucléaire en 2009, d'une manière solennelle, sur la place de la Comédie, a continué à demander cet engagement à la ville, justement à propos, au moment de ce jeune public. Alors le jeune public de 2016, c'était la première fois que les Montpelliérains se réunissaient pour cela, parce qu'ils avaient, pour certains d'entre eux, déjà participé à ce jeûne qui se fait à Paris tous les ans. Et là, bon, ils ont décidé de le faire à Montpellier. Donc, et en 2017, après justement qu'on ait eu la déclaration de ce traité d'interdiction des armes nucléaires, il était encore plus important de faire pression sur notre président de la République et le gouvernement pour qu'il ratifie ce traité. Donc ce jeûne public a eu lieu, c'est un jeûne action sur l'esplanade, et il y a eu plusieurs manifestations, une soirée cinéma qui a présenté un film sur Miracle Mile. Ensuite, ça montrait évidemment la panique qu'il peut y avoir dans une ville quand il y a une menace nucléaire.
Voilà, c'est ça, quand il y a une annonce d'un éventuel bombardement.
Également, l'année 2017 a été aussi animée par le général à la retraite Francis Lynn, qui est venu pour animer le débat du film qui a été présenté, et également a fait une conférence sur l'esplanade le lendemain.
Voilà, tout à fait.
Conférence publique.
Sur le grand public. Et ça, c'est intéressant, puisque bon, ce n'est pas le premier général, hein, bien sûr, à prendre position, à montrer l'absurdité de cette soi-disant force de dissuasion. Quand on voit après toutes les dérives qu'il y a eu au niveau des conflits dits classiques, et d'une part, et puis et d'autre part, avec la stratégie de, on pourrait dire, de provocation, dissuasion entre guillemets, de la Corée du Nord. Il faut rappeler, pour l'anecdote, que le jour même de la signature de l'adhésion conjointe, enfin de la ville de Montpellier avec Heidelberg et puis Montpellier-Vermont, le matin même, il y avait eu un essai nucléaire souterrain de la Corée du Nord. Donc ça remonte à 2006. Donc c'est pas aujourd'hui même que cet exemple de Corée du Nord est aussi significatif par rapport à tous les risques des dérives sur la position ne veulent pas changer les puissances nucléaires militaires actuelles. Alors, en ce qui concerne cette volonté de débat, au-delà des villes, que ce soit au niveau du Parlement et du Parlement français notamment, la directrice de la campagne à ICAN, Béatrice Fine, qui a reçu donc officiellement ce prix,
ce prix Nobel,
ce week-end, a fait une allusion particulière, à l'absence ou au refus de la France d'envisager au moins une réflexion de fond et pour un changement à terme de sa stratégie de défense, et en regrettant qu'il n'y avait même pas d'ambassadeur de la France au moment de cette remise du prix Nobel de la paix. Et donc toute l'action aujourd'hui pour nous, c'est de pouvoir effectivement de sensibiliser de plus en plus de débats et de députés et de sénateurs pour qu'il y ait un véritable débat parlementaire de fond sur la stratégie de dissuasion et la politique de défense, et de prendre en compte ce traité d'interdiction des armes nucléaires voté par l'ONU, qui pourra entrer en application quand il y aura au moins 50 pays qui l'auront ratifié.
Alors je rappelle que le mercredi 13 décembre, c'est à 20h au cinéma Utopia, et que vous regarderez le film Atom d'Elisabeth Levray, qui s'est appuyé d'ailleurs sur toute une enquête faite par un photographe algérien sur le terrain même. C'est une séance unique, donc proposée par le collectif Stop Arme Nucléaire 34. Vous pouvez rappeler les membres de ce collectif?
Eh bien, les membres de ce collectif d'arrêt du nucléaire 34, c'est à la fois le mouvement pour le désarmement, la paix, la liberté, le mouvement pour une alternative non violente. Il y a également Pax Christi, la Maison de la Paix Arche.
Et Arrêt du Nucléaire 34.
Arrêt du Nucléaire 34. Et puis il y a des partenaires qui ont également appuyé un certain nombre de toutes ces initiatives, dont la Ligue des droits de l'homme, et Greenpeace et Pax Christi, notamment, plus la CIMAD.
Et la FPS.
Et la FPS, avec auparavant l'Association des Palestiniens, a été très impliqué dans ce problème-là, parce qu'il y a bien sûr le problème de l'armement nucléaire d'Israël.
Alors nous allons reparler, mais d'abord écoutons la musique que vous avez apportée. C'est We Shall Overcome, voilà. Un chant bien connu des marches pour les droits civiques,
voilà,
et chanté par John Bess.
We shall overcome, we shall overcome.
Alors, je reprends. Malheureusement, la personne qui devait venir pour le FPS 34, l'association France-Palestine Solidarité, n'étant pas arrivée, je vous fais part tout de même de la deuxième partie, justement, de cette venue de Patrice Bouveret à Montpellier, puisque jeudi 14 décembre, à 18h, à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc, il doit venir animer une conférence débat « Coopération militaire et sécuritaire France-Israël ». Alors, il faut dire que Patrice Bouveret, qui est directeur de l'Observatoire des armements, donc, a été chargé par la FPS 34 de rédiger un dossier sur la coopération militaire et sécuritaire France-Israël. Pourquoi ? Parce que depuis de longues années, on sait bien que la France a beaucoup participé à la constitution de l'arme nucléaire en Israël. Mais non seulement ça, récemment encore, on a trouvé que la France achetait des drones en Israël, mais non seulement ça, que des composants fabriqués en France ont été trouvés parmi les débris de missiles israéliens après des attaques meurtrières contre les Palestiniens en 2014. Donc, c'est bien montré que, justement, cette collaboration au point de vue des armements est tout à fait blâmable et doit être complètement doit cesser complètement. Il doit y avoir une enquête parlementaire à ce sujet. Il y a même des responsables politiques qui donneraient en modèle justement la sécurité entre guillemets d'Israël, en disant que la France devrait s'en inspirer, n'est-ce pas, pour sa sécurité contre les terroristes. Alors que, je rappelle, qu'il y a un traité international, justement, sur le commerce des armes, qu'une troisième conférence sur ce traité s'est tenue en septembre 2017, que ce traité est applicable depuis décembre 2014, car il a été ratifié en 2013. Établi en 2013, il a été ratifié en 2014 et en décembre 2014, depuis décembre 2014, il est applicable. Or, ce traité montre bien que le commerce des armes doit être justement surveillé et que aucun armement ne doit être fourni à des pays qui violent les droits de l'homme.
Tout à fait. Absolument. Et là, tout ce aussi qui s'est passé au Proche-Orient, au Moyen-Orient, bien, montre bien le problème de la complicité des grandes puissances vendeuses d'armes et dont, malheureusement, notre France.
Alors, je passe au calendrier rapidement de cette semaine. D'abord, je rappelle que nationalement, mardi 12 décembre à Paris, aura lieu une mobilisation de masse pour dire haut et fort « pas un euro de plus pour les énergies du passé » à l'occasion du sommet international organisé par Macron sur les finances pour le climat. C'est le deuxième anniversaire de la COP21. Et dans les territoires en lutte, eh bien c'est ce dimanche 10 décembre qu'ont eu lieu des rassemblements avec le même slogan « pas un euro de plus pour les énergies du passé ». Samedi 16 décembre, c'est à Menton, à 15h, qu'aura lieu une manifestation pour l'accueil des migrants et contre la répression de la solidarité, à l'appel du collectif Solidarité Migrants 06 de la Roya et de la Coordination internationale des sans-papiers. Ici, localement, Migrants Bienvenus organise un départ aller-retour en bus. Départ entre 7 et 8 heures, justement, le 16 décembre. Retour à minuit. Cela coûte 30 euros. Tarif réduit 15 euros. Donc, joignez-vous à cette manifestation si vous êtes disponible. Je passe au calendrier régional. Jeudi 14 décembre, à Coufoulens dans l'Aude, auront lieu des rencontres régionales « Développer la santé et environnement dans les territoires ». C'est organisé par Graines Languedoc-Roussillon. Le contact est 04 67 06 77 46. En ce qui concerne le calendrier départemental, eh bien, je rappelle bien sûr, mercredi 13 décembre à 15h, une conférence de presse en présence de Patrice Bouvray, directeur de l'Observatoire des armements et membre du comité d'animation d'ICANN France, à la brasserie Le Dôme de avenue Georges Clémenceau. Et ce même soir, à 20h, au cinéma Utopia, mercredi 13 décembre, la projection du film « Atom » sur les conséquences des essais nucléaires français au Sahara algérien, avec la réalisatrice Elisabeth Levray, et un débat également avec Patrice Bouvray. Et le jeudi 14 décembre, c'est à 18h, à l'espace Martin Luther King, qu'aura lieu la conférence justement sur la coopération militaire et sécuritaire France-Israël avec Patrice Bouvray. C'est une soirée organisée par la FPS 34. Également, jeudi 14 décembre à 10h45, c'est le collectif Oxygène et l'association SOS Less Environnement qui vous invite à venir devant le tribunal administratif de Montpellier, 6 rue Pitot, parce que ce jour-là a lieu l'examen en première instance du recours contre le permis d'aménager déposé par l'association SOS Less Environnement contre la société Decathlon qui veut envahir le site des Fontanelles à Saint-Clément-de-Rivière pour en faire une zone commerciale qu'on appelle Oxylane. Et donc le collectif Oxygène vous invite à venir manifester devant le tribunal administratif jeudi 14 décembre à 10h45. Je rappelle également de la part de l'UNICEF que le marché de Noël qui a lieu jusqu'au 30 décembre eh bien, voit la présence d'un chalet de l'UNICEF de 10h à 21h avec un nocturne vendredi et samedi jusqu'à 22h30 et que vous trouverez à ce stand beaucoup de nouveaux cadeaux, des papiers cadeaux, les cartes postales habituelles, des livres de cuisine, des jeux, puzzles et doudous, peluches, des boules nettoyantes pour ordinateur, un adaptateur clé USB, des mugs, des porte-clés, des bloc-notes, des posters à colorier, des bougies, des boules de Noël, etc. Rendez visite à ce stand, donc marché de Noël, jusqu'au 30 décembre. À bientôt, chers auditeurs.